Bonjour, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Donc en direct depuis le 4e salon des éditions libertaires à Lyon. Et dans le cadre donc des préparations, des entretiens qui vont précéder les débats de ce salon, je vais vous présenter Jean-Marc Delpech, qui a écrit un ouvrage sur Alexandre ou Marius Jacob, c'est selon, il nous expliquera, Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur. Donc on va parler, je pense, de l'ouvrage, mais aussi du personnage et même du contexte politique dans lequel il a œuvré.
Absolument. Bonjour d'abord. Donc Alexandre Marius Jacob, la petite précision, c'est Alexandre quand il cambriolait, Marius c'est à la fin de sa vie, quand il est devenu forain, le prénom Marius revenait nettement moins cher à faire marquer sur le barnum que le prénom Alexandre, puisque le prix était à la lettre. Et donc ça, la confusion, elle est entretenue. Beaucoup disent aujourd'hui Marius Jacob, parce que ça fait très marseillais. Hein.
Il était quand même marseillais.
Oui, il était marseillais. Même il a dit lors de son procès en 1905, je suis de Marseille et je m'en vante. Mais il n'empêche que le fait de dire Marius Jacob, historiographiquement parlant, rapproche à tout un imaginaire typique local. Nom de Dieu, on est de Marseille, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On nage en disant Marius Jacob dans la mythologie. Marius Jacob, c'est le forain. C'est Alexandre le voleur.
Donc c'est d'Alexandre qu'on va parler.
Absolument. Et plus particulièrement du principe politique qu'est le vol. Hein, puisque au mois de février dernier est sorti un ouvrage au très honorable édition de la Sorbonne qui s'appelle « Au voleur, images et représentations du vol dans la France contemporaine ». Un ouvrage fort bon, hein, au demeurant. Un ouvrage collectif, et dans cet ouvrage collectif, on trouve un article d'un historien qui s'appelle Vivien Bouet, relativement connu pour avoir fait une thèse sur les anarchistes contre la République, thèse qui est légèrement polémique, cet article s'appelle « Le discours sur le vol dans la presse anarchiste française de 1880 à 1914 ». L'article, a priori, est relativement intéressant, sauf que quand on lit la conclusion... Or, pour les leaders anarchistes, cet acte pose d'emblée deux questions, au moins qui ne cesseront plus d'être au centre des débats au sein du mouvement. Comment appeler les exploités à reprendre illégalement aux exploiteurs ce que ces derniers ont confisqué, sans risquer l'amalgame entre anarchistes et malfaiteurs, et sans attirer dans le mouvement des criminels ou des malfaiteurs qui se livreront à des activités sous couvert des théories anarchistes. Bref, on a l'impression qu'à travers tout un exposé... scientifique, sous le couvert du sceau de l'université, on va avoir un article à charge, une condamnation a fortiori des pratiques illégalistes, alors que l'illégalisme a été une composante importante du mouvement anarchiste à la fin du 19e siècle. Alors pour montrer cela, hein, l'auteur s'avance, à pas feutrés. Il va citer énormément de journaux, il en cite une quarantaine, et je me suis amusé à compter le nombre de fois où certains journaux revenaient, et on a les journaux de gens graves, donc Le Temps, La Révolte, Le Révolté, qui reviennent une trentaine de fois, alors que le journal de Libertad, l'Anarchie, qui est pro-illégaliste, va revenir que trois fois. Autrement dit, le lecteur de cet article va forcément adapter une position contre les anarchistes qui pratiquent le vol. Ensuite, si on regarde encore un peu plus cet article, il y a certains oublis parmi la trentaine de journaux cités. Il en manque certains, comme Germinal d'Amiens. Or, Germinal d'Amiens, c'est le journal qui va prendre fait et cause pour Alexandre Jacob, qui, pendant deux semaines, du 8 au 22 mars 1905, va ouvertement dire « le vol, c'est bien ». Et le vol, c'est la reprise illégale, c'est la reprise des biens spoliés par le bourgeois. Autrement dit, on peut s'interroger pourquoi cet oubli sur le journal Germinal, d'autant plus que dans cet article, il va s'appuyer sur quelques figures de voleurs. Il va prendre Clément Duval, un vol. Il va prendre Pigny, une dizaine de vols. Il va prendre Jules Bonneau et il oublie, comme par hasard, un honnête homme que certains pourraient appeler Marius, par exemple. Donc, on a deux oublis fondamentaux, Germinal. On a et Alexandre Marius Jacob, que Jean Métron considère comme le cas témoin de l'illégalisme anarchiste. Donc je me demande comment cet historien a pu, ou quel est le but de cet article.
C'est un parti pris idéologique.
Ça, c'est à lui de nous répondre. Hein. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Mais il n'empêche que la conclusion, oui, c'est celle-là. Or, si on regarde qui est Alexandre Marius Jacob, on s'aperçoit que, sans le placer dans un contexte politique bien précis, on tombe facilement dans la mythologie. On l'a vu au tout début hein, avec le prénom Marius, mais ça, c'est plutôt du folklorique. Mais on va tomber facilement dans de l'aventurier, dans du Arsène Lupin, et ainsi de suite, ce qui n'est absolument pas. En revanche, si on considère tout ce contexte politique de la vie d'Alexandre Jacob, on s'aperçoit de la pertinence d'un discours qui, forcément, sur le vol, est politique.
Oui, d'un discours, puis d'une action. C'est quelqu'un qui est parti de son indignation face à l'injustice.
Absolument. Lorsqu'il écrit ses souvenirs racines d'un demi-siècle à Jean Métron en 1948, donc une courte biographie d'une dizaine de pages, il va dire à propos de son arrestation en 1897 à Marseille pour fabrication d'explosifs, tout cela maigrit et me révolta. Alors pourquoi il écrit ça? Tout simplement parce que 2 ans plus tard, il commet le fameux coup du Mont-de-Piété de Marseille, hein, où il est déguisé en policier. Alors ça se passe le 31 mars 1899, et il est donc avec 3 complices déguisés en policiers et il rentre chez un commissionnaire au Mont-de-Piété. Et prétextant une enquête pour vol, ils embarquent toute la marchandise du commissionnaire de Mont-de-Piété et ils embarquent aussi le commissionnaire du Mont-de-Piété qui dépose au palais de justice de Marseille. Et donc, bien sûr, les faux policiers s'en vont précipitamment en disant au commissionnaire, vous attendez là, le juge va vous recevoir. Et le lendemain, on découvre la supercherie. Et c'est Alexis Danan qui, en 1935, dira que ce vol a fait rire Marseille et toute la France entière, parce que le lendemain, c'était le 1er avril 1899. Donc voilà. Donc ça, c'est un début. Mais progressivement, donc là, quand il commet ça, Alexandre Jacob, il a une 20aine d'années. Et progressivement, il va monter une bande de cambrioleurs avec réellement des principes anarchistes. Or, ce qui est très gênant, c'est que on voit uniquement les actes. Alors effectivement, ce sont des vols par certains sont relativement audacieux, comme celui du 6 octobre 1901, rue Quincampoix à Paris, où il cambriole le bijoutier Bourdin, un vol qui aura pour butin 176 000 francs. De l'époque, vol qui est très 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 connu parce que les cambrioleurs sont passés par le toit. Par la suite, la presse a appelé ce type de cambriolage les perce-murailles. Donc, ils sont passés par le toit et pour cambrioler l'appartement du dessous, ils ont percé un trou. Et pour éviter que les gravats ne fassent trop de bruit, ils ont glissé un parapluie dans le trou, ils ont ouvert le parapluie et les gravats ont tombé dans le parapluie. C'est ce vol qu'on retrouve dans le film de Jules Dassin en 1955, me semble-t-il, dans du rififi chez les hommes. Donc, finalement, on ne voit que ça. On a tendance à ne voir que ça chez Alexandre Marius Jacob, alors que toute la partie idéologique est tout aussi importante, si ce n'est primordiale pour expliquer ses actes. Or, cette partie idéologique, c'est évident, il ne peut le révéler qu'une fois arrêté. Ça serait stupide de dire, voilà, je vais voler politiquement avant. Autrement dit, les procès politiques des anarchistes sont souvent des tribunes. Parce que la presse, de toute façon, va nier leur existence. Et là, Jacob sait, quand il est arrêté en 1903 et que son procès a lieu en 1905, il sait qu'il va avoir une tribune, donc il va préparer. Et cette tribune, elle sera d'autant plus importante que la presse est là. Si vous regardez sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, donc sur la presse de l'époque, le Petit Journal, le Petit Parisien, Le Temps, Gilles Blas, etc., ils sont tous présents à Amiens. Amiens, c'est, lors du procès de Jacob, c'est une ville en état de siège. Il y a plus de 2000 ou 3000 policiers pour garder la ville. C'est quelque chose d'énorme. On ne rentre pas dans le tribunal sans carte signée par la préfecture. Tout le monde est trié sur les volets. Il y a des débuts d'émeutes dans Amiens. Germinal, le journal que nie Vivien Bouet dans son article, fait une propagande telle que j'allais dire que le moment est chaud pour Jacob pour servir sa soupe. Et il va la servir de deux manières. Un, il attire l'attention à lui en se moquant de tout ce qui peut lui passer
sous la main. Oui, il avait beaucoup d'humour. Hein, en plus.
Absolument. Alors, à titre d'exemple, le premier choc du procès, c'est quand le président Wehekind, qui préside donc ce tribunal d'Amiens, demande à Jacob de se lever. Ben non, vous êtes bien assis. Quand il lui demande de se découvrir, il fait non, vous êtes bien couvert. J'en ai d'autres là sous les yeux. Un curé qui dépose pour faire l'inventaire de ce qui a été cambriolé. Jacob l'arrête de suite et lui dit « Je vais vous aider un peu. Souvenez-vous ce qu'il y a dans la sacristie. » Donc là, le texte est tiré de, il me semble, le Petit Parisien. « Voyons, je vais vous aider un peu. Il y avait des tableaux d'un genre très spécial, disons du style fragonard. » Autrement dit, le curé a oublié de mentionner qu'on lui a volé des tableaux érotiques. Et donc, on imagine bien la salle qui rit. D'ailleurs, il y a un journal qui a couvert le procès qui dit « On ne se croirait plus au palais de justice, mais au grand palais. » C'est-à-dire, on nage en plein dans le vaudeville. Et donc, Jacob s'amuse à faire ça. Bref, il attire l'attention sur lui, ce qui, entre parenthèses, permet d'alléger le poids de ses co-accusés, parce qu'ils sont 23 à Amiens, 23 de la bande dite des travailleurs de la nuit. Et parallèlement, comme l'attention est sur lui, il peut placer des discours politiques. Alors au total, tout le monde connaît finalement la déclaration « Pourquoi j'ai cambriolé » qu'on retrouve dans les écrits de Jacob chez l'insomniaque, qu'on retrouve dans Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur à la CL. Mais il va y en avoir 8 au moins. 8 déclarations anarchistes qui peuvent être considérées comme des prototypes de déclarations. Il va placer des déclarations sur les rentiers, sur la noblesse, sur les militaires, sur les curés. Il a dit notamment sur les curés, je ne parlerai pas de la religion car on ne piétine pas un cadavre.
Cadavre qui se porte encore bien.
oui, mais on est dans le contexte de l'époque. Hein, c'est 1905, c'est C'est la séparation, donc l'Église a un peu du plomb dans l'aile à l'époque.
Mais il avait un procès, il avait tué personne quand même. Il n'a jamais tué personne, cet homme-là.
Pour être affirmatif, il faudrait des preuves.
On n'est pas sûr.
Il n'y a pas de source pour l'instant. Non, en fait, il a manqué d'être arrêté à Orléans en 1901, alors qu'il venait d'effectuer avec un de ses complices qui s'appelait Royer, il venait effectuer deux cambriolages et ils n'ont pas pu prendre le train, parce que le principe des travailleurs de la nuit, c'est un cambriolage scientifique ultra rapide, basé sur le réseau ferré de France. Et donc ils s'arrêtent à Orléans, ils manquent le train, donc ils prennent une chambre en garni et le soir même, il y a deux flics qui viennent les appréhender et qui les demandent de suivre au commissariat. Et une fois dans la rue, les deux voleurs se séparent en courant. Il y a l'infirmier Royer qui est arrêté et Jacob qui réussit à s'enfuir. Mais avant, il a fallu qu'il tire sur l'agent Couillot, le bien nommé. Et pour ça, alors il va ne faire que le blesser. Et pour ce fait, il sera jugé à Orléans pour tentative de meurtre. Et à Orléans, même principe, il va placer des discours et des réparties. Et il manque de se faire éjecter du tribunal parce que quand le cas Couillot est présenté, et tout le monde bien évidemment, on va présenter ça comme le héros du jour, hein, celui qui a fait face avec courage face à l'adversité. Et Jacob réplique en disant « Mais Monsieur le Président, un héros qui recule n'est qu'une moitié de héros. » Donc c'est ce principe-là chez Jacob qui l'amène ensuite à sortir toute une dialectique autour du vol. Dialectique qui se résume dans la phrase du texte « Pourquoi j'ai cambriolé ?»« Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. » Donc autrement dit, avec une phrase comme ça, on peut voler pour se nourrir, pour ses propres besoins, donc la jouissance immédiate des fruits de ce qu'ils appelaient la reprise individuelle, mais aussi pour la cause. Et 10% des vols effectués par Alexandre Jacob, 10% étaient reversés à des organisations anarchistes.
Mmh. Et ça, on est au tout début de son parcours. Là, il a 25 ans quand même, 1905, oui. 26 ans. C'est un type qui n'avait pas spécialement fait d'études, donc il s'est fait tout seul, on va dire, dans ses idées. Et...
Le problème, c'est que ce genre de propos, on le voit avec nos yeux d'aujourd'hui. Le niveau scolaire était certainement un peu plus élevé à l'époque. C'est vrai que l'école Jacob est née en 1879. Les lois Ferry sur l'école, c'est 1881-82. Autrement dit, lui, elles viennent à peine de s'installer. Lui, il les subit pas, hein, puisqu'il va, il me semble, c'est à l'école des frères chrétiens à Marseille. Et ils ont quand même une solide base. Il a une solide base d'enseignement. Mais c'est vrai, oui, ils sont autodidactes, beaucoup. Alors là aussi, c'est une particularité du mouvement anarchiste. L'éducation, la lecture, l'éducation par la brochure et beaucoup d'anarchistes illégalistes ne sont pas les sombres abrutis que la presse de la belle époque veulent bien présenter. Si je prends le cas notamment d'un compagnon d'Alexandre Jacob, Léon Pélissard, hein, de ceux qui se font arrêter avec lui à Rennes dans la Somme en 1903, après le drame de Pont-Rémy, dans laquelle là l'agent Pruvot est tué, mais pas par Jacob, hein, par Félix Bourg. C'est pour ça que quand tu nous disais, ah oui, mais Jacob, est-ce qu'il a tué? Ben non, c'est pas Jacob qui a tué, c'est un de ses compagnons. Léon Pélissard a écrit parmi les plus beaux textes illégalistes, les plus belles chansons illégalistes qui soient, et qu'on retrouve qui ont été enregistrées à l'occasion de la réédition des écrits de Jacob en 2004 par l'Insomniac.
Alors, 26 ans, il va mourir en 1954, c'est ça, je crois, hein.
Enfin, oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui va se passer pendant le reste de sa vie, hein? Il va faire de la prison, d'abord.
C'est plus que de la prison, c'est même du camp de concentration à la française, hein, c'est le bagne. Hein, c'est, alors là aussi, il y a polémique, à savoir est-ce que le bagne, les camps de la transportation peuvent être assimilés à ce qu'ont été les camps nazis ou les goulags staliniens. Moi, j'aurais tendance à être plutôt affirmatif, tout en mesurant bien le propos, parce que on n'est pas au même niveau, bien sûr, mais la volonté d'élimination est la même. Quand on lit la loi de 1854 qui crée le bagne, quand on lit l'article 2, ça semble une évidence, puisqu'il est dit que les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonie. La mortalité du bagne, de sa création en 1854 à sa fermeture jusqu'au départ du dernier bagnard de Guyane en 1953, c'est 10%. 10% par an. Hein, par an. Sachant d'autres chiffres, lorsqu'on arrête la transportation en 1938, c'est-à-dire lorsqu'on arrête d'envoyer des condamnés en Guyane, ils sont à peu près 3000. 3000 bagnards, que ce soit des bagnards transportés, que ce soit des bagnards relégués, restent en Guyane. 3000. En 1945, quand la Seconde Guerre mondiale se termine, ils sont plus que 1500 par décès. Ça fait une mortalité de 50%. Le taux de mortalité du camp du Struthof en Alsace, c'est de 47%. Ça se passe de tout commentaire. Après, quand on regarde l'institution bagne, tout fonctionne sur un système totalitaire, sur un système autoritaire. Le but, c'est de faire crever le bagnard. Et oui, Jacob va subir ça. Mais s'il a survécu, donc il pose le pied, Jacob, le 13 janvier 1906 aux îles du Salut. Et on le retrouve libéré, enfin non pas libéré, il va terminer ses années de prison en France à partir de 1925. Donc il a survécu à 19 ans de bagne.
Il termine, mais il est éprouvé quand même. Il n'aura plus la même vitalité après.
Je ne suis pas forcément d'accord, même si effectivement ça se comprend quand on prend une telle baffe carcérale dans la gueule. Quoi. On ne voit plus forcément le monde, j'allais dire, de la même manière. Mais ça ne va pas l'empêcher, de partir en Espagne en 1936, par exemple. Notamment pour... l'appareil, le manque de sources nous empêche d'être relativement précis. On sait par l'entremise de son ami Pierre-Valentin Berthier, qui est décédé récemment d'ailleurs, qu'il aurait contacté le marchand d'armes Basile Zaharoff à la fin de l'année 1936. Mais on n'en sait pas plus.
Sur ce qu'il a pu vivre en Espagne.
Absolument.
Il est revenu à la fin de la...
En 1937.
En 37.
Apparemment, il avait... Alors, il y a une deuxième source qui nous permet de préciser un tout petit peu. Il existe des papiers, des sauf-conduits, où le nom de Jacob apparaît, signé Pierre Bénard. Et Jacob serait allé en Espagne comme marchand d'armes. Non, comme marchand d'agrumes. Autrement dit, ce n'est pas des pruneaux, mais presque. Hein, mais c'est, voilà, donc on a quand même encore quelqu'un qui est suractif. On a dans les sources qui sont conservées, notamment au CIRA, qui sont conservées aux archives internationales d'Amsterdam, mais aussi aux archives nationales, des papiers qui montrent que l'homme qu'il a été était en relation avec les pacifistes, avec les néo-malthusiens. Il était très très copain avec les époux Imbert. Il a contracté un mariage blanc avec une antifasciste italienne dont le mari avait été tué par les sbires de Mussolini. Bref, c'est pas quelqu'un qui vit reclus mes précédents confrères et biographes ont pu le montrer, hein, puisque on a cette image de l'ermite reclus dans Arreuilly au fond des bois.
Et à creuser le coin aussi.
Alors, le coin, ça me pose un problème parce que, apparemment, je ne sais pas s'il a connu le coin avant la Seconde Guerre mondiale ou après la Seconde Guerre mondiale. Et d'après un de ses amis forains qui s'appelait Guy Denisot, c'est chez lui en 1945-47 que Jacob aurait connu le coin, pas avant. Donc ça... contrairement, allez, j'allais dire à Bernard Thomas ou William Caruchet, qui ont été les deux biographes de Jacob, on n'en sait rien. Et c'est peut-être pour ça aussi que Alain Sergent, le premier biographe, celui qui a écrit Un anarchiste de la Belle Époque au Seuil en 1950, n'en parle jamais. Il n'en demeure pas moins que, une fois encore, cette vie prouve que ce bonhomme ne s'est jamais écarté de ses principes et anarchistes et illégalistes, même si on pourrait croire à la lecture de Jean Métron qu'il condamne l'illégalisme, puisque on trouve dans l'histoire du mouvement anarchiste de Métron 7-8 pages sur Alexandre Jacob, et il se sert des souvenirs racis d'un demi-siècle. Et notamment, il prend 2-3 phrases au hasard où Jacob dit « Je ne crois pas que l'illégalisme puisse libérer la société actuelle. » Présente. Très exactement, le mot c'est présente. Or, de quelle société présente parle-t-il ? Est-ce que c'est celle de 1905 ou est-ce que c'est celle de 1948 quand il écrit sa lettre ? Nuance, Métron ne le dit pas. Ensuite, je me pose des questions quant à Métron, parce que c'est quand même un communiste qui parle des anarchistes, et donc la vision de l'illégalisme est forcément faussée. Et la troisième objection que je pourrais mettre, c'est que en 1953, quand il écrit à sa dernière compagne, il y a une phrase qui est très intéressante, il lui écrit, tu sais, dans le cas d'une guerre sociale, je préférerais tuer un homme plutôt que d'égorger une poule, parce que égorger une poule, ce serait faire au fils de bourreau. Autrement dit, on a encore quelqu'un qui a un sens aigu de l'expression lutte des classes.
Cet homme n'a pas regroupé ses écrits, enfin, dans ce domaine-là, il n'a pas fait... Il a laissé les choses aller, quoi. Il a laissé derrière lui ce qu'il avait fait en son temps, mais il n'a pas tenu à éditer, à regrouper, à théoriser.
Il a toujours refusé qu'on lui écrive sa biographie jusqu'en 1950, jusqu'à sa rencontre avec Alain Sergent. Si ce n'est pour ce qui est de ses écrits illégalistes, hein, de ses déclarations, tout a été fait par Germinal. Les souvenirs... d'un révolté qu'il écrit à la prison d'Orléans, qui sont un texte mais faramineux de justesse et politique et d'exactitude historique. Je me suis même rendu, parce que dans les souvenirs d'un révolté, Jacob raconte son arrestation. du cambriolage tilolois place Saint-Pierre à Amiens, jusqu'à son interpellation par une voiture dans laquelle se trouvait le procureur de la République d'Amiens, alors que lui était l'objet d'une chasse à l'homme. Bref, Jacob raconte, il donne des lieux, il donne des noms, et je me suis amusé dans la Picardie avec une voiture à suivre les lieux indiqués. Ben, on s'aperçoit que dans sa chasse à l'homme, déjà les lieux existent. Donc c'est un peu comme si, bon, c'est vrai que c'est la Picardie, hein, le temps s'est arrêté là-bas, mais il n'empêche que on s'aperçoit que dans sa fuite, il a fait un énorme détour qui a fini par le perdre, sinon il aurait réussi à rattraper un train, etc. Bref, c'était quelqu'un qui ne ment absolument pas, et cette histoire de souvenir d'un révolté qui se lit réellement comme un roman, comme un c'est ultra prenant, et dans laquelle à l'intérieur de laquelle il insère des considérations politiques illégalistes. Cette histoire, il a cédé les droits de il l'a écrite pour le journal Germinal. Autrement dit, tout ce qu'il a pu faire, oui, il a pu le faire, mais une fois encore, il le fait après. Alors ça, effectivement, certains historiens, certains journalistes de l'époque vont pouvoir affirmer que c'est facile de dire après, c'est facile de se couvrir de l'excuse anarchiste pour alléger la peine. Mais alors à ce moment-là, pourquoi dans la déclaration, pourquoi j'ai cambriolé, qui ne pourra pas dire au tribunal d'Amiens, parce qu'il va se faire expulser le 13 ou le 14 mars du tribunal, pourquoi dans cette déclaration d'Amiens, dit-il, mais condamnez-moi, envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, je m'en fous. Moi, ce que dit Jacob lors de son procès, c'est moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'encours, et je l'ai fait pour la cause. Et effectivement, quand on regarde la première biographie d'Alexandre Jacob par Alain Sergent en 1950, on s'aperçoit que Jacob, il a financé les locaux du Libertaire rue d'Orcel par le biais de ses cambriolages, que si Jacob a le soutien d'un Charles Malateau, au moins jusqu'en 1914, parce qu'on sait après ce qu'est devenu Charles Malateau, hein, le retour va arriver, puisque Malateau, en 1908, va tenter de le faire évader en organisant un faux mariage blanc entre le bagnard Jacob et une immigrée russe.
Voilà, ben il nous faut conclure, on arrive au terme. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Marius Jacob dans la société de 2014, 2015 bientôt ?
Ah, ça, c'est pas à l'historien de le dire, mais... je dirais que il suffit de regarder autour de soi pour voir que le principe de lutte des classes, il est encore là.
Voilà. Ben merci. Donc, votre conférence, c'est cet après-midi à... je vais le retrouver tout de suite.
15h30. Non,
14h. De 14h15 de 14h à 15h30. Alors, conférence débat, donc, dans le cadre du Salon des éditions libertaires, rue d'Enfer-Rochereau, à la Maison des associations. Merci.
Merci.